Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, réalisée par Eliane Girard et Fanny Cohen-Moreau et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Éric Carrère et Cédric Chatelus. La gourmandise ce matin est un tableau réalisé par Monet en 1875 intitulé Un coin d'appartement. On y voit un petit garçon calme et triste, les mains dans les poches, posant pour son père dans la pénombre de son appartement bourgeois. Des rideaux et des plantes encadrent la solitude de l'enfant qui se tient dans une pièce reculée, dont le parquet ciré brille de froids reflets bleus. Une majesté résignée règne dans l'atmosphère, l'être figuré a la vie devant lui et n'est pas encore assez abîmé pour n'avoir plus envie de rien. Au fond, une silhouette fantomatique se détache, celle de sa mère, déjà loin. C'est d'une beauté sombre et douce, on mettra le lien vers le tableau sur le site de l'émission. Sur le site de la revue Terrain Vague, dont elle est co-rédactrice en chef, notre apothicaire de l'âme est présentée ainsi. Journaliste, auteur, curatrice, militante et pousseuse de disques, elle co-programme le festival queer parisien Loud and Proud et produit une émission sur Tsugi Radio. Passionnée par les ondes, elle a aussi produit des émissions sur le féminisme, la vie queer, la contre-culture et les chansons d'amour. Quant à Terrain Vague, c'est, apprend-on, une revue borderline qui explore les lisières du genre du féminisme, de l'art contemporain et de la culture pop. D'habitude, j'écris tout, mais cette introduction représente bien l'éclectisme de notre invité, qui a étudié les lettres modernes et traîné son esprit curieux à l'école des métiers de l'information. Elle a aussi été réceptionniste en auberge de jeunesse, correctrice dans un cabinet d'avocats, secrétaire de rédaction pour la presse et rédactrice d'horoscope. Plus tard, elle reprend des études et intègre le master de création littéraire de Paris 8 avec comme projet ce qui deviendra son premier roman « Avant que j'oublie » paru aux éditions Verdier l'année dernière. Ouvrage couronné de plusieurs prix, dont celui du livre Inter. Dedans, elle raconte la mort de son père et le deuil consécutif avec une énergie vitale et un sens de la cocasserie qui met temporairement le tragique à distance. L'auteur se dit extrêmement mélancolique et ajoute « J'ai souvent pleuré dans ma vie pour rien, le poids de l'existence le matin c'était déjà trop, mais cela m'arrive beaucoup moins », affirmation prometteuse pour l'échange à venir. Bonjour Anne-Poly.
Bonjour Eva.
Anne-Poly, quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Comme vous le disiez un peu, c'est quand même un rapport apaisé désormais. Je pleure moins le matin quand la tartine se renverse à l'envers. Je continue à soupirer pas mal, ce qui me vaut beaucoup de moqueries de la part de mes camarades de travail notamment. Et oui, cet apaisement est un peu récent. Bon, en revanche, je vous cache pas que la mélancolie ressurgit hein, à des tas de moments, en particulier quand on commence à voir le vide à travers le tissu, vous voyez, quand on commence à voir les coutures, quand l'abîme se rappelle à notre bon souvenir, ça m'arrive encore. Alors ça m'arrive dans des circonstances particulières, en l'occurrence quand il y a une dépression neurochimique, genre gueule de bois, descente, tout ça. Bon, ça c'est assez normal. Et puis, évidemment, dans des situations où il faut se désinvestir de quelque chose, se détacher.
Alors la finitude.
Évidemment, il y a les catastrophes amoureuses, et puis le deuil, évidemment, voilà.
Il y a tant de deuils différents, Anne-Poly, en fait. Toutes les ruptures amoureuses, les ruptures amicales aussi, qui peuvent être absolument terribles. Bon, la mort, évidemment. Ouais, voilà. La mort, c'est un peu désuet, maintenant, nous.
C'est un peu désuet, la mort, c'est un peu has-been.
Ouais.
Non, oui, voilà, quand il faut se détacher de quelque chose, c'est-à-dire détricoter la fiction qui a fait qu'on a été vers cet objet-là. Et ça, c'est particulièrement difficile. Alors, des fois, pour se relever, il faut attendre que ça passe, attendre que le vide dégage, et puis tout d'un coup retrouver d'autres mots, un autre rapport au langage. J'ai lu un truc qui disait la défaite des métaphores, mais c'est à peu près ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tout ça, ça tient plus en fait. Et puis, par le miracle de tout un tas de choses, peut-être de la langue aussi, on arrive à se re-raconter une nouvelle histoire, et là, c'est tout à fait différent.
Dans « Avant que j'oublie », Anne-Poly, vous écrivez ceci. De façon générale, bon, c'est dit au passé, mais de façon générale, à part l'amitié, l'amour et peut-être la musique et la littérature, toutes les tentatives pour camoufler le vide et la violence sur lesquelles toute chose reposait me semblaient obscènes, péremptoires. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, ça continue de me faire tiquer. Par exemple, dans ce passage du livre, je décris un optimiste qui décide de mettre sur sa fenêtre sale, pleine d'un crépi atroce, une petite jardinière pleine de pensées qui grelottent dans le vent d'hiver. Et ça continue de me... Je l'aperçois partout. Partout où il y a des efforts faits pour camoufler l'abîme, je continue à voir ça. Ça me saute aux yeux tout le temps, en fait.
Donc pour vous, finalement, Anne-Poly, c'est moins tragique de se confronter à l'abîme directement que d'essayer de mettre des rideaux pailletés devant?
Oui, autant y aller, en fait. Puisque de toute façon, tout flotte et rien ne tient, pourquoi pas marcher sur le fil, sur la crête, en ayant conscience des abîmes, justement. Le tout, c'est de ne pas se laisser aspirer. Alors c'est un jeu, en fait, c'est un pari, un peu, sur l'avenir, sur la vie, sur ce qu'on va faire après. Mais et peut-être c'est la soluce.
La soluce, ok. Mais n'avez-vous jamais eu la tentation de vous laisser aspirer, Anne-Poly? Ça peut être dangereux d'être sur cette crête.
Oui, enfin, l'aspiration, en fait, elle est dangereuse parce que ça peut être un puits sans fond duquel on sort abîmé, souvent. Si, la tentation de la mélancolie, oui, la tentation d'aller dans le sentiment. Je suis quelqu'un de très passionné, c'est-à-dire que il m'arrive parfois, coupablement, d'écouter des musiques tristes pour pleurer tout mon soûl, le temps que le nuage passe, quoi. Voilà, je me laisse pas aspirer, mais je vais faire des tours quand même pour voir si ça a toujours le même visage.
Mais ça aide, c'est comme un réceptacle finalement d'écouter une chanson triste. C'est presque comme les saignées qu'on faisait avant, dès que quelqu'un avait un problème, on faisait une saignée.
Voilà, c'est ça, c'est la théorie des humeurs. Trop de bile noire, on va faire une petite saignée, ça va s'évacuer rapidement. Oui, c'est curatif. Et puis, je me laisse pleurer devant des films un peu bêta aussi, par exemple. Enfin, j'ai l'alarme facile, ça n'a pas changé. Mais à la différence d'autrefois, c'est un chagrin qui est rattrapable.
Ça, c'est quand même réjouissant.
C'est un grand soulagement, parce que c'est fatigant de pleurer tout le temps.
Ouais. Mais alors là, j'annonce plutôt des réjouissances aux auditeurs, si vous me le permettez, Anne-Poly, puisque vous allez convoquer, entre autres, des films d'horreur. Ouais. Ça me ravit. Des fontaines pour défunts, des cailloux à visage, des animaux malpeints, des listes du vent, Catherine Millot, plein de musique, Dolly Parton, Gustave Doré, David Shrigley et Gary Larson, juste après Clou. Jusqu'ici, tout va bien. Sélectionné par les programmateurs musicaux de France Inter.
T'en sais rien, oh, t'en sais rien. Jusqu'où tiendra le mirage, l'illusion que tout va bien. Mais t'en sais rien, oh, t'en sais rien. Tu souris comme une image, est-ce au diable ou au saint. Le faux comme une flèche qu'on décoche. Blesse ce qui tenterait une approche. Mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tu en joues. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. Tout va. Rien ne se voit. Tout va. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit rien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit. D'ici on ne voit, d'ici on ne voit rien.
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Anne Poli.
D'après une véritable histoire. En 1971, la famille Perron emménagea dans la maison de ses rêves.
Ça va être super.
Mais ils ignoraient qu'elle avait été le théâtre d'un meurtre sanglant en 1863, ainsi que d'innombrables scènes d'horreur au cours du siècle suivant. Ce qui arriva aux Perron dans cette maison fut si traumatisant que la famille a toujours refusé d'en parler.
On a commencé à voir de nombreux esprits dans la maison.
Le film d'horreur américain Conjuring, les dossiers Warren, réalisé par James Wan, est inspiré des récits de Lorraine et Ed Warren, couple de parapsychologues et chasseurs de fantômes ayant exercé dans les années 60 et 70. Anne Poli, je suis tellement ravie que enfin quelqu'un choisisse un film d'horreur dans cette émission, parce que ça absorbe tellement, ça fait si peur que ça éloigne évidemment de la mélancolie. Pourquoi ce choix? Quel est votre rapport à l'horreur, à l'épouvante?
Je dirais que, de fait, quand on cherche à se divertir au sens littéral de la mélancolie ou de quelque chose de triste, la peur, c'est très très efficace. C'est pas, et c'est en plus c'est efficace parce que c'est efficace physiquement. C'est-à-dire que soudain, on se met à avoir le cœur qui tremble, la gorge qui se serre, la mâchoire aussi. Et puis tout d'un coup, on a envie de hurler. Et voilà, il y a des choses comme ça qui se produisent au niveau du corps, qui vous sortent un peu de la pétrification de la mélancolie, par exemple. Donc ça, c'est vachement important. Après, j'aime particulièrement les films d'horreur parce que, alors, j'aime tous les films d'horreur. J'aime pas les films gore où il y a plein de sang, des tripes, ça j'aime pas. Quoique, j'aime bien les films de zombies, par exemple. J'en ai regardé énormément. Et alors, bizarrement, j'ai moins de mal à regarder des films de zombies, même très violents. C'est plus facile pour moi que de regarder un film où quelqu'un trahit son meilleur ami. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais,
c'est moins compliqué. Et puis, ce que j'aime bien dans les films d'horreur aussi, c'est que, il y a toujours, enfin, pour les bons réalisateurs, un sous-texte politique. Bon, les zombies, on sait bien. Au début, c'est les consommateurs aveugles. Ensuite, c'est la population qu'on éblouit avec des feux d'artifice. Enfin, il y a tout un chemin comme ça. Et dans les films de possession, ce qui est encore mieux, c'est que, un, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Donc, ça nous donne une petite idée de... Par exemple, l'histoire de la finitude, dans ce cas-là, ne tient pas, puisqu'il y a d'autres trucs qu'on voit pas.
Donc ça, c'est dans Conjuring, qui est l'histoire d'une maison hantée, une famille qui emménage dans une maison isolée. Et évidemment, il y a des apparitions.
Oui, voilà. Et puis, c'est pas très rigolo. Puis, il n'y a pas qu'un fantôme dans cette histoire-là. Il y en a plusieurs qui sont manipulés par un qui les tient tous.
Et qui est assez malveillant.
Et qui est, voilà, qui est une sorcière, en fait.
Une sorcière qui apparaît quand même sur des placards terrifiants. C'est-à-dire que moi, si j'avais emménagé dans cette maison, je me serais tout de suite débarrassée de ce placard dans la chambre d'enfant.
Ouais. C'est ça, on se demande pourquoi les gens gardent les meubles dans les maisons. La petite fille se cogne la tête pendant des jours sur cette armoire et personne se dit, tiens, si on jetait l'armoire, vous voyez.
Ouais.
Ou le chien commence à hurler, veut pas rentrer dans la maison. Personne se dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi les chiens veulent pas hurler. Enfin, il y a une cocasserie aussi dans les films d'horreur où, évidemment, il y a la naïveté des personnages qui disent, ah, c'est rigolo, toutes ces fleurs fanées. Enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est aussi drôle. Et puis, dans les histoires de possession et de fantômes, il y a aussi le fait que, on n'est plus maître de son corps, c'est-à-dire on n'est plus maître de rien en fait. On est à la merci de quelque chose d'autre, et ça soulage aussi de se projeter dans. Enfin, ça me soulage pas d'être prise dans un exorcisme par exemple, ce que mais en tout cas quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, on peut rien y faire.
Oui, c'est la fatalité en fait.
Voilà. Et c'est aussi trouver des coupables, c'est-à-dire. Quand les choses se passent mal, c'est forcément qu'il y a un fantôme, quelque chose de plus grand que nous qui nous déteste et qui veut notre mal ou notre mort. Enfin voilà.
Oui, c'est pas simplement l'absurdité existentielle.
Non, il y a aussi une causalité dans tout ça.
Ah oui, ça c'est vrai que c'est rassurant.
Voilà, non, c'est assez rassurant. Alors, dans Conjuring 1 et 2, le 2 vous l'avez pas vu, vous me l'avez dit.
Non, je vous l'ai dit. Alors, j'adore les films d'horreur. J'ai vu le premier et comme on est en plein confinement, donc je suis toute seule chez moi, le premier c'est déjà compliqué. Le second, je me suis dit que j'allais pas dormir.
Alors, je vous conseille effectivement pas si vous êtes seule dans un drôle d'appartement avec des couloirs, parce que dans Conjuring 2, il y a donc un esprit très méchant qui s'appelle Varlach, qui prend les traits d'une nonne qui ressemble à Marilyn Manson.
Et je vois.
Ça, c'est... Moi, j'ai continué à l'avoir plusieurs jours après la nonne. Hein.
C'est pour ça.
Voilà. Donc, je vous le conseille vraiment pas.
J'ai eu peur pendant la bande-annonce.
Voilà. Ben, là, rien qu'en écoutant déjà le petit extrait que vous avez diffusé, on était déjà un peu, on avait les poils.
J'ai derrière vous. Anne Poli, finalement, la question centrale de chacun d'entre nous, la question essentielle, c'est comment se débarrasser de ces démons.
C'est ça.
Autodixidie, tout art et exorcisme. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, Anne-Poly, en écrivant votre roman ?
Oui, il y a une façon de purger le deuil. Enfin, une façon d'y revenir, une façon de justement de discuter avec ses fantômes jusqu'au dernier détail pour que l'esprit parte en paix. Voilà, que les vivants et les morts soient en paix. Et je pense que mon livre, je l'ai un peu écrit sur ce mode-là, pas sur le mode exorciste. Non plus, mais il y avait quelque chose de l'ordre de la catharsis, évidemment, et en fait c'est un travail de deuil assez assez typique quand on y pense, parce que c'est la forme que prend ce livre. Il y a d'abord le déni, et puis après il y a l'absurdité de la mort, la congruité des situations, la manière dont le réel s'exprime de manière complètement absurde et ridicule. Puis arrive le moment où justement tout le tissage de la réalité, quand on commence à voir les coutures, et alors là c'est l'affaissement, et puis après il y a une reprise. Donc je dirais que ce livre, je l'ai aussi écrit pour contrer justement les manuels de développement personnel qui vous expliquent comment faire son deuil en 3 semaines seulement. Parce que justement, revenir sur le deuil et finalement plonger un petit peu, s'attarder un peu dans cette mélancolie-là, c'est aussi une forme de résistance, c'est-à-dire refuser d'être dans ce système. Parce que les heures où on pleure, les heures où on fait rien, c'est des heures improductives. Ça dérange un peu tout le monde, ça, ces heures à être triste. D'ailleurs, vous voyez bien que votre entourage... Alors, pour le deuil, il y a des circonstances particulières. On a une autorisation d'être malheureux.
Oui, mais pendant un mois.
Alors, 2-3 max. Ouais. Au-delà de 3 mois, c'est pathologique, paraît-il. Ouais. Voilà. Donc oui, une autorisation à être triste. Et je ne sais plus où on en était, mais de fait, c'était un peu une catharsis pour moi d'avoir écrit ce livre. Et puis, voilà, ça permet de reprendre son chemin. Et si vous regardez bien dans ce livre, à la fin, il y a des fantômes.
Oui, mais Anne-Poly, alors ça, je vais m'y replonger. Pourtant, je l'ai lu attentivement. Je me souviens surtout d'une scène à la fin où vous écoutez une chanson de Céline Dion que vous jugez mauvaise de façon intellectuelle, mais qui vous prend aux tripes. Et vous dites que cette chanson, elle sort vos dernières larmes concernant ce deuil. Ça existe, les dernières larmes concernant un deuil ?
Je crois que oui. Je crois qu'il y a un moment, c'est pas que le chagrin cesse, c'est qu'il prend une autre forme. C'est-à-dire une forme moins vive, moins acérée, moins écorchée. Ça devient quelque chose de plus lancinant. Et donc, si les larmes sont le signe d'une poussée, en quelque sorte, elles finissent par se tarir parce que ça retombe quand même au bout d'un moment. On a toujours un fond de tristesse, mais l'esprit est plastique et s'habitue à tout. Et l'histoire des chansons pop et de Céline Dion en particulier, alors... C'est pas que je suis fan de Céline... Enfin, j'aime Céline Dion, mais disons que Céline Dion est utile à l'humanité, à nos contemporains, en fait. Oui, les chansons, comme ça, elles ont ce pouvoir-là, en fait, de provoquer des poussées et de dire, justement, toute cette tristesse et tout l'ineffable de la vie en très peu de temps. Donc, c'est pas du temps perdu. En 3 minutes, le truc est réglé, hop, vous pleurez un petit coup, et puis après, c'est passé.
Et c'est encore physique. On va y revenir tout à l'heure, Anne-Poly, parce que le corps apparaît souvent dans ce que vous dites. On reste pour le moment dans l'au-delà avec votre idée anti-spleen. Il s'agit de fontaines au Japon, construites pour que les fantômes, les morts, puissent boire quand ils ont soif, ce qui signifie qu'ils ne sont pas loin. Et cette idée vous soulage. Vous croyez aux fantômes ? Les fantômes, ça a tant de définitions possibles ?
Ouais, je crois que... Alors, c'est pas très rationnel de dire ça... À une heure de grande écoute. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je crois un peu aux fantômes. Je crois qu'il y a des choses un peu parallèles. Je crois qu'on voit pas tout. Je crois que... Et puis, quand bien même, ça n'existerait pas, quelle maille y a à penser que ça pourrait exister ? Ça nous soulage. Ça veut dire que les frontières sont pas si définitives. Alors, au Japon, il y a des fontaines où les morts et les vivants peuvent s'abreuver en commun. Mais il y a aussi, j'ai vu, des portails qui s'appellent les tori et qui sont des passages... du réel à l'irréel, enfin, ou à une autre dimension. Ils sont symbolisés par une porte, et c'est sur des chemins ou dans des forêts, je me rappelle pas très bien. Et en tout cas, on voit ça aussi, par exemple, dans les films de Miyazaki. C'est pareil, c'est très soulageant de regarder un film de Miyazaki. Pourquoi ? Parce que les gens sont morts, d'accord, mais ils meurent jamais vraiment, il se passe autre chose, ils sont dans une autre dimension, ils prennent une autre forme. Ils deviennent fontaines, ils deviennent cafards, ou ils deviennent, j'en sais rien. Mais, en tout cas, cette idée d'une continuité, enfin, d'un dialogue qui serait pas complètement rompu, c'est très très soulageant pour moi.
Je viens de me souvenir au ralenti, donc, grâce à la performance de mon cerveau, où se situait le fantôme dans votre livre, Anne-Poly ? Il y a une manche.
Oui, oui, c'est ça.
C'est ça.
Animal, on est mal, et si l'on ne se conduit pas bien, on revivra peut-être dans la peau d'un...
On est mal de Gérard Manset. Pour introduire l'activité qui vous grise, Anne Poli, vous êtes actuellement à la tête de deux collections d'objets singulières. La première, c'est les animaux, figurines en céramique ou sur assiette, bol, etc. Tristes, en colère, déprimés, sous drogue ou psychotiques, et cela tient à leurs yeux mal peints.
Oui.
Racontez-nous, comment ça a commencé cette collection?
En fait, je sais pas, un jour je suis allée dans une brocante, je crois, et j'ai vu un chien en faïence grise. Et je me suis dit, mais que ce chien a l'air triste. Et en fait, c'est parce que ses yeux étaient... C'était un chien n'importe lequel, sur moule, vous voyez, mais l'artiste peintre qui avait terminé la figure avait raté les yeux. Donc ça faisait un chien dépressif. Rapidement, quelqu'un est rentré de voyage en Crète et m'a offert une chouette dont les yeux étaient démesurés par rapport à la taille. Et donc je me suis dit, mon Dieu, elle a pris quelque chose, cette chouette. Voilà. Et ça a un peu commencé comme ça. Depuis, j'ai trouvé une assiette avec des ours qui défoncent une forêt. Ils sont très, très en colère. On comprend pas très bien pourquoi, mais ils ont tout cassé autour d'eux. J'ai un autre chien qu'on m'a offert, qui lui a pris quelque chose qui fait rire, hein, qui a un petit foulard jaune et tout ça, c'est très amusant. Et, je sais plus, j'en ai encore un ou deux, mais ça m'amuse parce que j'aime bien, comment on dit ça,
anthropomorphisme.
Voilà, c'est ça. Ça me fait rire,
oui,
en fait.
Parce que c'est autant mignon que risible.
Voilà, c'est ça. On voit à la fois le défaut d'exécution, ce qui est assez risible et qui est ridicule, donc. Et puis d'imaginer que les animaux ont des sentiments. Par exemple, que des ours puissent être très en colère, par exemple, ça me fait rire.
Je pense que les ours peuvent être très en colère.
Voilà, mais imaginez un ours qui vous dit, je suis vraiment très en colère.
J'ai besoin d'extérioriser ma colère.
Là, c'est ça. Et comme je vois que vous aimez bien les chiens.
Ah oui, oui, c'est une passion.
Voilà. Et les chiens aussi, on a l'impression parfois qu'ils disent des trucs.
Ouais.
Qu'ils disent, je suis contente de te voir. Enfin, des choses comme ça. Donc, j'aime beaucoup toutes ces espèces de petits dialogues toutes seules que j'ai dans ma tête avec des animaux qui parleraient et diraient, je suis très déprimée en ce moment, ça va pas du tout. Voilà. C'est ça que, donc, en fait, cette collection, c'est poursuivre ce petit dialogue que j'ai dans ma tête avec des animaux qui parleraient ou s'exprimeraient sur leurs émotions profondes.
Oui, moi, mon chien me parlait beaucoup de frisbee ou de Kant. J'ai pas vraiment compris, mais c'était l'un des deux. Votre seconde collection, Anne Poli, c'est des cailloux sur lesquels apparaissent des visages. Ça ne vous fait pas peur?
Non, c'est plutôt rigolo de voir une... Alors, j'imagine qu'il y a un nom savant pour ça, mais...
Oui, il y a toujours un nom savant pour les choses.
Voilà, voir des visages dans les cailloux, c'est un hasard de rencontre, en quelque sorte.
Avec des cailloux.
Avec des cailloux. J'ai tendance à voir les choses comme ça, par exemple, je sais pas, un oiseau qui se casse la figure, un caillou de travers. Je vois pas mal de détails comme ça dans ma vie, et les visages sur les cailloux, c'est un peu plus récent. J'en ai trouvé 2-3 à l'affilée, je me dis, c'est un signe, continuons. Et j'ai appris qu'il y avait un musée au Japon. Donc, où il y a tous des gens qui envoient des cailloux avec des visages dessus. Et donc, il y a une collection spectaculaire maintenant.
Vous avez le projet d'y aller, Anne Poli?
Peut-être. Le Japon, finalement, tout ça concourt à me donner envie d'aller voir ce qui s'y passe.
Comment bien habiter la solitude? C'est la question à laquelle nous tenterons de répondre sans garantie de succès, juste après un titre de la playlist France Inter, Balthazar, Losers.
Right. How much it feels like we are losing for the moment.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Anne Poli. Votre sérum littéraire est le très joli récit Aux solitudes de la psychanalyste et écrivain Catherine Millot, ouvrage paru en 2011 et qui tient son titre de la fameuse mélodie du compositeur baroque Purcell. Comment avez-vous découvert ce texte, Anne Poli ?
Il y a jamais vraiment de hasard, hein. On découvre des textes, on a l'impression que c'était complètement par hasard, mais en fait pas du tout. C'était une période de ma vie où donc je sortais de ce deuil que je décris dans mon livre et c'était déjà un petit peu fini. Mais c'était greffé par-dessus une catastrophe amoureuse, ce qui venait rappuyer sur la sensation d'abandon et d'être seule au monde. Et donc j'étais aussi en pleine analyse, enfin presque sur la fin. Enfin bref, tout se mêlait pour que ça n'aille pas. Et je suis allée traîner et j'ai vu ce livre de l'écrivaine et psychanalyste Catherine Millot qui disait Aux solitudes. Je me dis ça c'est pour moi. Et de fait c'est vraiment un livre où j'ai trouvé une solution. Elle essaye de dire quelque chose de ce que c'est que la solitude, en fait.
Essaye de trouver une façon joyeuse de l'habiter.
Voilà. Enfin, donc elle montre les versants. D'abord, elle décrit tout un tas de versants sombres de la solitude, et puis après, elle explique qu'il y a des solitudes qui sont plus lumineuses.
Parce qu'elle a souffert de la solitude. Elle a souffert aussi des ruptures, même si elle sublimait un peu le sentiment d'amour grâce à Proust. En fait, elle était amoureuse des amours malheureuses décrites dans À la recherche.
Oui, c'est très. C'est une pensée qui est très complexe et qui va... En fait, c'est intéressant aussi parce que Catherine Millot, elle écrit, c'est elle qui le dit, hein. Je crois avoir lu ça, qu'elle écrit selon les principes de l'association libre, le processus qui se décline sur un divan. Et du coup, ça l'emmène d'une référence à l'autre, comme ça, dans une grande liberté. Et donc, c'est cette liberté aussi qui m'avait fait beaucoup de bien. Et donc, ça a été aussi un peu une révélation pour moi, parce que donc, elle décrit cette solitude, cette souffrance, la solitude comme... menace de dissolution, en fait, comme détresse intense. Et puis, tout d'un coup, elle explique en fait que le vide n'est pas forcément une menace de dissolution, ni d'effondrement. Ça peut aussi être un vide qui génère de la légèreté, de la liberté. Un vide qui permet de disparaître à soi-même et d'entrer dans une espèce de contemplation, en tout cas d'un être-là, qui soulage la pensée de toute sa fatigue, en fait. Et alors, ça a l'air bête comme ça, mais sur le coup, ça m'a semblé être vraiment la solution qui me concernait complètement. Et puis, de ce vide qu'elle décrit, de cette solitude heureuse, cette contemplation, en fait, il y a un espace qui s'ouvre à ce moment-là. Et bizarrement, pour moi, cet espace-là a permis l'écriture. Voilà. C'était cet espace qui me manquait. Il fallait peut-être passer par tout ce vide-là pour ensuite trouver cette vacuole, comme on dit. Enfin voilà, et ça m'a vraiment aidée et c'est...
Cette vacuole,
c'est un petit espace, c'est une petite grotte, un petit... C'est amusant comme mot, une vacuole.
Oui, vacuole, je ne la connaissais pas. Anne Poli, il y a aussi quelque chose de beau. Alors déjà, elle parle de Barthes et c'est assez amusant qu'il était vraiment tétanisé et menacé par les sollicitations sociales et qu'il voulait en fait une simple retraite. Et puis, elle fait aussi l'éloge de la vieillesse sur le fait qu'on n'a plus le souci de soi, de l'ambition. On se demande même pourquoi est-ce qu'en fait on ne pense pas comme ça plus jeune dans ce qu'elle décrit, c'est très parlant. Catherine Millot, dans Aux solitudes, se pose la question de savoir si une solitude heureuse est possible sans œuvre.
J'aurais tendance à dire que non, parce que de cette contemplation naît forcément un nouveau rapport au langage, en fait, et qui serait cette fois-ci de l'ordre de l'écriture. C'est-à-dire, y a une espèce de transmutation qui s'opère justement dans cette solitude-là, qui transforme... je crois, le vide en plein et le manque en jouissance, quelque chose comme ça. Et je dirais que presque l'œuvre d'art, c'est concomitant, en fait. C'est parce qu'il y a cette solitude.
Vous nous avez donné une liste d'auteurs qui vous font rire. On n'a pas le temps de tout détailler, mais j'aimerais un petit mot sur chacun d'entre eux, parce que je me dis que les auditeurs pourraient se réjouir un peu en cette période assez peu réjouissante qui va durer les 3 prochains siècles, j'imagine, avant l'apocalypse. Et donc d'abord, il y a Emmanuel Venet, psychiatre.
Un psychiatre. Emmanuel Venet, c'est un auteur qui a publié entre autres chez Verdier, justement, que j'ai découvert il y a peu de temps. Et en fait, il se met à la place d'un autiste Asperger qui, comme vous le savez peut-être, enfin je crois en tout cas, sont parfois des personnes qui se soucient peu des conventions sociales. Et donc c'est un livre qui démarre sur l'enterrement de la tante Berthe, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un autiste Asperger qui décrit cet enterrement. Et la première phrase, c'est « Je me demande pourquoi on ne dit jamais la vérité sur les morts au moment des enterrements ». Donc, ça présage de tout un chapitre. Et alors, c'est tout à fait hilarant. Il y a aussi Lydie Salvert, que j'aime bien. J'ai relu quelque chose un livre qui s'appelle « Sept femmes ». Et alors, ce qui est très jouissif chez Lydie Salvert, c'est sa vitesse. Il y a une vitesse, une drôlerie, ça va à toute allure. C'est une grande jouissance de lire Lydie Salvert. Et puis aussi, elle prend à partie beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les textes qui me prennent un peu à partie. Elle est du style à écrire « Vous voyez ce que je veux dire ?» ou « Amen !» ou « Vous allez m'en dire des nouvelles ?» Enfin, vous voyez, donc ça j'aime beaucoup aussi. Je sais plus qui je vous avais cité.
Alors,
encore.
Vous devez aimer les gens du XVIIIe siècle, parce que j'ai toujours l'impression qu'ils s'adressent à nous directement, en nous guidant un peu. Il y a Clémentine Mélois qu'on a reçue il y a 2 semaines.
Voilà, alors j'adore Clémentine Mélois, elle me fait hurler de rire. Je sais pas où est-ce qu'on peut trouver, enfin, comment elle a une boîte à rire aussi grosse.
Et parce qu'elle est très très angoissée, c'est ce qu'elle nous a confié.
Ben voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de secret.
Et il y a tout le temps une rigolade. Toutes c'est les 5 minutes, en fait, quand on y pense, avec Clémentine Mélois.
Elle est un remède. Anne Pauly, vous avez aussi parlé d'Emmanuel Pirer, qui fait aussi des fictions radio, du théâtre, des lectures performances, des livres.
Oui, alors Emmanuel Pirer, c'est encore autre chose, mais ça me fait rire pareil. C'est une espèce d'absurdité, parfois. En fait, ce qui est drôle avec Emmanuel Pirer, c'est qu'elle allume des feux de fiction un peu partout. Elle fait démarrer des petits feux de fiction, comme ça. Puis après, on ne sait pas comment, par magie, en fait, elle rabat tout dans une même histoire. Ça arrive notamment dans son dernier livre, qui s'appelle Chimère, je crois.
Oui, et puis
il y avait eu un autre livre que j'avais beaucoup aimé, je me rappelle plus trop des détails, mais je me souviens que j'avais ri. Je me souviens surtout, bizarrement, des livres pour lesquels j'ai eu des éclats de rire. Et Féerie Générale en faisait partie.
Rien que les titres de ces fictions sont assez drôlatiques. Il y a Libido des Martiens ou Comment j'ai nettoyé une phrase de Marguerite Duras.
Voilà, tout est dit. Take my advice. If you love someone, don't think twice. Love you, baby, love. Anne Pauly, il paraît que c'est une torture pour vous de choisir des chansons, mais dans celles qui vous empêchent d'être triste, on peut pas toutes les passer, mais elles seront toutes sur le site internet. Il y a en tout cas ce titre de 1974, Sugar Baby Love, premier single du groupe britannique The Rubettes, notamment pour Une citation.
Oui, qu'on a entendue, je crois, et ça dit « People don't think twice, if you love someone
». Oui, c'est ça. «
People take my advice ». En fait, ça dit « Les gens, écoutez mon conseil, si vous aimez quelqu'un, n'attendez pas ». Voilà. Donc, c'est ce que nous offre la culture populaire, c'est-à-dire des maximes, des sentences comme ça qui sont utiles. Et celle-là est d'autant plus utile qu'en plus, elle sort de nulle part. Et en plus, le type la dit avec une voix un peu sérieuse, alors qu'ils font que hurler depuis le début de la chanson. Donc, il y a un effet de contraste qui m'amuse beaucoup. Après, ce qui est drôle dans cette chanson, justement, c'est, enfin, en tout cas, ce qui est très joyeux, c'est le type qui hurle. J'ai jamais entendu dans aucune autre chanson quelqu'un hurler de joie comme ça. Et à tous les coups, ça marche. Et pourtant, c'est un groupe vraiment cheap. Ils étaient mal habillés, ils avaient des colpelles à tarte, des bérets blancs. Ils ont fait que ce tube, ou à peu près. Et à chaque fois que j'écoute ça, je me dis, mais c'est fou. C'est fou que ça marche autant. Et c'est aussi un truc très enfantin. C'est-à-dire une joie là-dedans qu'on retrouve dans très peu d'autres chansons, qui est vraiment la joie de l'enfance quand on exulte. C'est aussi une chanson qui ferait un bon générique de fin, voyez ? Je suis très sensible à ça, les chansons qui feraient un bon générique de fin.
Oui.
Là, ça se terminerait bien, tout le monde serait content, on jetterait la casquette en l'air, il y aurait une image fixe et il y aurait le générique.
Et puis on aurait sauté avant la photo, donc voilà. On serait vraiment en l'air dans une position grotesque.
Exactement.
C'était aussi le premier succès de Dave qu'il a repris en français et dans plein d'autres langues. Qu'est-ce qu'on entend, Anne Pauly ?
On entend le générique du film L'aile ou la cuisse.
De Vladimir Kosma.
Voilà.
Ça, vous défiez quiconque d'être triste en écoutant ce générique.
Oui, c'est impossible d'être triste après avoir écouté ça. C'est tellement baroque, en fait. C'est tellement... C'était une époque où on convoquait tout l'orchestre pour seulement 3 minutes de générique. Ça me semble complètement fou. Et donc, il y a des voix, des trompettes, enfin, il y a tout le monde est là, quoi. Et en plus, il y a une compo, il y a un moment un peu inquiétant. Enfin, c'est c'est une joie infinie aussi ce morceau. C'est parce qu'il y a une jouissance de la musique là. Il y en a des couches et des couches et c'est voilà. Et c'est très drôle. Et bon, le film est pas si bon, hein. Mais en tout cas, j'ai un qui est vraiment très réussi.
C'est déjà pas mal. Un autre choix, Annepolis, c'est un succès de 1980, encore issu du Royaume-Uni comme le premier choix. Video Kill the Radio Stars des Buggles. Pareil, la joie pure de l'enfance, c'est ce que vous dites au sujet de ce morceau.
Ouais, ouais, c'est une chanson très joyeuse et la joie de l'enfance aussi, pour les mêmes raisons que The Rubettes. Et en fait, ce qui est amusant dans cette chanson aussi, c'est que, alors, c'est très composé. Hein, il y a des voix, il y a une voix qui fait semblant d'être une voix ancienne et puis une voix plus moderne. Il y a des arpégios. Enfin, c'est très très composé. Et ce qui est amusant dans cette chanson, c'est c'est le requiem en quelque sorte. Que les gens qui la chantent font à l'époque qui les précède, c'est-à-dire qu'ils vont détruire tout ce qu'il y a eu derrière eux. En fait, c'est eux qui lancent toute la synth pop, c'est-à-dire le moment où les synthétiseurs remplacent les vrais instruments et où ça se déploie. Et en fait, c'est une espèce de chanson qui est très nostalgique parce que c'est aussi une chanson qui dit que rien ne dure et qu'on a beau aimer les choses et elles disparaissent et que souvent les jeunes générations ont tendance à piétiner ce qu'il y a eu avant.
Ou en faire des reprises ridicules.
Aussi. Et donc, c'est terrible parce que c'est une chanson qui marque le passage d'une génération et qui est bizarrement très joyeuse. Et je voulais aussi vous la proposer parce que elle évoque ma génération à moi. Et moi, je suis quadragénaire plus. Et en fait, justement, ma génération passe aussi. Là, il y a d'autres qui arrivent. Et tout ça va être relayé aux oubliettes en 5 minutes. Et ça me rend très, très nostalgique. Alors, en même temps que très heureuse de la réécouter.
Dansons avant de pleurer. Annepolis, est-ce que vous pourriez, en l'honneur de vos anciennes émissions, Elle enfile des perles et les chansons d'amour, qu'on peut écouter en ligne, hein, elles sont super pour les amateurs de musique. Est-ce que vous pouvez la lancer tel un DJ fou?
On va écouter tout de suite Video Kill the Radio Stars, une chanson des Buggles dont le leader était donc Trevor Horn, qui a par la suite produit Frankie Goes to Hollywood, mais également Art of Noise, enfin des choses comme ça des années 80. Et c'est une chanson folle, pleine d'orchestre et de joie.
DJ fou.
Video kill the radio star.
Remède à la mélancolie sur France Inter avec Anne Poli et...
Chicken Ranch has been recouped in the song and dance, and I know you wouldn't want to miss the chance to come to the Chicken Ranch. It's foot stomping, rug romping, sexy, good fun. Come on down and bring someone. There's good times and trouble and fiery romance at the best little Texas Chicken Ranch.
Come on, partner.
Y'all come back now, you hear?
Chanson principale du film de 1982 réalisé par Colin Higgins et adapté de la comédie musicale éponyme La Cage aux Poules, film dont est tirée votre citation consolatoire. Anne Poli, elle est dite par l'actrice et chanteuse de country Dolly Parton, sur laquelle vous avez écrit un très chouette article sur Brain Magazine, qui campe Miss Mona, une tenancière de maison close. Et elle dit, en gros, je le traduis approximativement en français, si vous voyez quelqu'un sans sourire, donnez-lui le vôtre.
Oui, alors ça a l'air niais comme ça, mais en fait c'est très utile ça aussi. Parce que c'est vrai qu'on... je sais pas, il faut faire attention aux gens en fait. Il faut faire attention et dire ça, ça veut dire qu'on a pris la peine de regarder la figure des gens et de voir qu'ils allaient pas bien et donc de s'adresser à eux en disant « mais pourquoi pas sourire ?» etc. Bref. Et aussi c'était pour évoquer Dolly Parton, donc, que j'adore et qui, dans ce film, comme dans d'autres et comme dans sa musique... déverse pour la foule des consolations par milliers, et ces chansons d'amour en sont la preuve vivante. Et je vous conseille La Cage aux Poules, qui est un film un peu problématique par endroits aujourd'hui, mais néanmoins tout à fait camp et très très drôle, avec Richard Burton qu'on retrouve en petite tenue chantant dans un tuyau d'aspirateur.
Oui, ça, alors les aspirateurs, c'est une aguiche pour tous les films. Tête pour deux violons alto, violoncelle et piano en fa mineur de César Franck, compositeur contemporain de l'auteur de votre tableau anti-spleen Anne Poli, Entre ciel et terre, réalisé en 1862 par le virtuose Gustave Doré. Pouvez-vous nous faire une brève description de ce tableau qui préfigure un dénouement assez fatal pour l'un des protagonistes ?
Alors il s'agit d'une espèce de prise de... enfin d'une peinture... d'une prise de vue entre ciel et terre, donc voilà, précisément le peintre fait un cadre entre ciel et terre, on sait pas du tout d'où il peint.
Oui, on dirait qu'il est dans le ciel.
Et en fait, on voit en bas des enfants qui tendent un cerf-volant. Nous, on est à la hauteur du cerf-volant, il y a une grenouille qui est accrochée à ce cerf-volant, et arrive au loin une cigogne avec le bec ouvert. Donc c'est très drôle parce que, évidemment qu'on imagine que la grenouille va se faire croquer, mais en fait on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien avoir un coup de vent et ça n'arrive pas du tout. Et en fait, c'est très consolateur pour moi, ça, le côté aléatoire de tout malheur. C'est-à-dire que ça peut très mal se passer, mais en même temps, à la faveur d'un malentendu, ça peut quand même passer.
Anne Poli, on n'a pas le temps de développer à ce sujet, mais vous avez choisi les dessins de David Shrigley, l'artiste écossais qui a travaillé pour la presse et qui fait souvent des dessins assez simples, accompagnés d'une phrase absurde en un mot, ce qui vous plaît chez lui.
Shrigley, c'est que ça a l'air crétin et naïf, et en fait c'est beaucoup plus cynique et profond qu'on ne croit.
Allez voir, chers auditeurs, tout ce qu'on a évoqué, on mettra tout sur le site internet. Anne Poli avait donné beaucoup plus de remèdes que ce qu'on a évoqué à l'antenne, et ils seront tous sur le site parce qu'ils sont vraiment réjouissants. Merci beaucoup Anne Poli d'être venue dans l'émission.
Merci à vous.
Je rappelle que votre roman Avant que j'oublie est paru aux éditions Verdier. Chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont comme toujours sur le site de l'émission, je vous l'ai dit, et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. J'espère que l'alacrité qui règne dans votre esprit a l'élégance d'un Scooby-Doo réservé. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h10.